Our age is retrospective. It builds the sepulchres of the fathers. It writes biographies, histories, and criticism. The foregoing generations beheld God and nature face to face, we through their eyes. Why should not we also enjoy an original relation to the universe? Why should not we have a poetry and philosophy of insight and not of tradition, and a religion by revelation to us and not the history of theirs? Embosomed for a season in nature, whose floods of life stream around and through us, and invite us by the powers they supply to action proportioned to nature, why should we grope among the dry bones of the past, or put the living generation into masquerade out of its faded wardrobe? The sun shines today also. There is more wool and flax in the fields. There are new lands, new men, new thoughts. Let us demand our own works and laws and worship.
On va donc, vous l'avez tous compris, parler d'intertextualité et d'héritage en littérature. Mathilde, justement, va nous déclamer une fable que beaucoup de gens connaissent très bien, signée Jean de La Fontaine, mais héritée de manière totalement assumée d'auteurs antiques et modernes, connus ou inconnus, peu importe, tant qu'il y a des animaux. Auparavant, je vous laisse écouter un extrait de Flamma du groupe Quintal, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui reprend de manière très moderne des textes du Moyen-Âge, en latin, en ancien français, en gaélique, avec un léger accent allemand vachement cool.
Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour partout, plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait, nulle offense, même s'il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévorerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, sotte espèce. Est-ce un péché? Non, non. Vous leur fîtes seigneur en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tous les maux, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre et, je pense, quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria « Haro sur le baudet !» Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa pégadie fut jugée capendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
Bon, une fois n'est pas coutume, au lieu de faire une discussion littéraire, intelligente, j'ai décidé de poser des questions embarrassantes, bon, en fait pas tant que ça, à l'équipe des yeux en des oreilles. Je suis extrêmement bien entouré en plus, je me sens plus. Alors, donc, est-ce que finalement vous avez quelque chose de spécial dont vous avez hérité d'une manière ou d'une autre et que vous aimeriez partager avec les auditeurs de Transistor?
Moi, je crois que j'ai hérité de toute ma famille, en particulier mes grands-parents, mon amour pour les animaux. Et de ma mère...
C'est mignon.
De ma mère, une super recette de crêpes aussi.
Ah, d'accord. Bon, on en rediscute plus tard à ce moment-là, parce que j'ai un peu faim, moi. Caroline, toi qui es invitée, qu'est-ce que tu nous as rapporté en héritage, finalement, de tes contrées ensoleillées?
Je ne l'ai pas apporté parce qu'il ne va pas avec mes vêtements du jour. Non, mais j'ai un collier de ma grand-mère qui est décédée. Voilà, c'est le moment émotion. Qu'elle portait
toujours. J'ai pas prévu le jingle pour la séquence émotion.
C'est pas grave, je peux faire. Comme ça.
Voilà, mais c'est pas mal.
C'est pas mal,
j'aime bien.
Et j'y tiens, mais il est bleu et or, donc là, ça va pas aujourd'hui. Sinon, j'ai probablement été de mon père, mon talent pour les langues.
D'accord. Du coup, on t'a pas eu en VO aujourd'hui, c'est dommage.
Moi, c'est beaucoup moins attendrissant.
Ce n'est pas ce que vous croyez.
J'ai hérité de ma grand-mère une obsession pour le ménage. C'est un peu gênant. Quoi? Et ça en énerve plus d'un, mais je suis un peu maniaque. Et voilà, donc je pense que j'ai. Et ma mère me dit que j'ai hérité ça de ma grand-mère, donc de sa mère à elle. Voilà.
D'accord.
Simplement, oui.
Mais du coup, c'est génétique ou environnemental?
Écoute, ma grand-mère ne vit pas dans ce pays, donc je pense que c'est génétique. Parce que
c'est fou, ça.
J'ai jamais vécu avec elle. Bref, je m'égare complètement.
Mais du coup, du coup, c'est bien dans le thème, parce que pour Il était une science, on va parler de l'évolution. Et donc, Caroline, ta question fait une magnifique transition pour une émission qui ne passe pas du tout maintenant. Désolé.
Merci quand même.
Céline?
Et ben moi, du coup, j'ai hérité de quelque chose de très matériel, mais auquel je tiens beaucoup. En fait, c'est un album de photos qui m'a été donné aussi par ma grand-mère. Mais de vieilles photos de gens qui étaient ma famille, mais dont je dois savoir les noms parce que je les ai notées. Qui remontent à très très loin. Et c'est assez émouvant parce que c'est là qu'on se rend compte aussi qu'on descend vraiment d'une lignée, en quelque sorte, et qu'on a plein de gens inconnus qui sont passés avant nous, et c'est assez émouvant de s'en rendre compte. Et j'ai aussi hérité de livres, quand j'étais enfant, qui m'ont été donnés, et je les ai toujours. Voilà,
Et du coup, on fera une émission des yeux, des oreilles. Le thème, ça sera les livres d'enfance de Céline.
et toi, Nicolas?
Et alors moi, malheureusement pour vous, en fait, j'ai hérité mon humour de choses comme, par exemple, les 2 minutes du peuple, de Terry Pratchett, des choses comme ça. Et
on donc,
du coup,
même.
Voilà le résultat.
Il dit malheureusement, mais en fait, il est super fier.
Mais je suis
t'aime comme
de
tu
moi,
es, tu n'as pas à t'excuser. Nicolas.
Oh là là. Alors, j'aimerais en régie qu'on coupe ce passage et qu'on me le tourne en boucle, en fait. Je pense que ça pourra servir de jingle à une future émission où je parlerai de moi, de ma vie et de mon âme. Du coup, j'ai aussi hérité d'une super émission qui s'appelle Des yeux ont des oreilles.
Et merci
Caroline d'être là pour les premiers épisodes, de venir de Nice, de braver les éléments, les contrôleurs SNCF, pour nous rejoindre. Et donc...
Est-ce que je peux ajouter un truc?
Oui, vas-y, mais oui, bien sûr.
Donc, il y a peut-être des gens comme moi qui n'ont pas du tout de culture, et quand Nicolas a dit héritage, on pensait d'abord Christopher Paolini. Et après, ils se sont dit non, cette série.
Je confirme, c'est la première chose à laquelle tu as pensé. Oui.
C'est oui, parce que je te l'ai dit en plus. Et après, je me suis dit non, cette série, elle est nulle. Enfin, le 4 en particulier, il est nul. Bon, c'est genre, c'est pas ça.
Il n'aurait pas dû avoir de 4.
Il n'aurait pas dû avoir de 4. Non, mais c'est le phénomène Hollywood. Bref. Du coup, on n'aurait jamais on aurait lu ça dans l'émission. Moi, j'adore la fantasy, mais alors là, bon, c'est pas notre âge. Par contre, je voulais conseiller une série de mangas qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Donc, manga japonais, comme la plupart des mangas. Qui parle de vin. Alors oui, parce que les Japonais se découvrent une passion pour le vin, apparemment c'est un truc en ce moment.
Tant qu'ils ne boivent pas du Beaujolais comme les Américains.
Apparemment pas. Et donc c'est l'histoire d'un... Enfin, le héros est le fils d'un œnologue très célèbre, dans le monde du manga bien sûr, qui serait l'équivalent de Robert Parker, c'est un mec connu, bref. Et qui vient de mourir, sauf que son fils déteste le vin. En fait, son père l'a forcé dans son enfance à goûter toutes sortes de baies et des pierres, en fait, pour lui apprendre à reconnaître les différents parfums, les différents goûts qu'on trouve dans le vin. Et il ne lui laissait jamais goûter le vin. Et en gros, il l'a complètement dégoûté. Et il travaillait pour une société de bière. Bref, son père vient de mourir. Et on découvre que le testament dit que s'il veut hériter de la fortune de son père, de sa demeure et surtout de sa collection de vins dont la valeur est inestimable, il va falloir qu'il soit en compétition avec un autre œnologue, un œnologue reconnu, qui a été adopté par son père avant qu'il meure. C'est toujours des histoires de rivalité débile dans les mangas. Et du coup, à chaque fois, il y a une description d'un vin que le père a marqué avant sa mort. Et ils doivent aller aux quatre coins du globe pour trouver le vin en question. Bon, bien sûr, c'est un manga. Donc, je veux dire, ils goûtent un vin et puis pouf, ils sont dans un champ de fleurs. Paf, c'est un vin, c'est la Joconde, oui. C'est les glaneuses de Millet. Oh mon Dieu, je sens des accents de bois. Enfin, je veux dire, c'est complètement exagéré. Mais après, c'est marrant, c'est éducatif, il y a des jolies images. Et c'est donc un héritage financier, mais qu'on s'approprie en apprenant à connaître son père. Qu'il avait complètement rejeté. Voilà.
C'est très beau. Moi, justement, ton œnologie, ça me fait penser au club œnologie alternative de l'ENS qui écrit. C'est le club Piquette, en fait, mais on appelle ça œnologie alternative. Et ils écrivent des descriptions de vins qui sont incroyablement précises. On sent le vin arracher la gorge quand on les lit. Bon, bref. Merci de nous avoir parlé de ce manga, parce que c'est pas souvent qu'on peut parler d'un manga dont les yeux ont des oreilles. Il faudrait que les yeux et des mains sachent lire de droite à gauche, de haut en bas. Enfin, c'est assez compliqué. Bon. C'est déjà la fin de cet épisode numéro 16 de Les yeux ont des oreilles. Et oui, c'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Merci à Caroline pour sa présence à un épisode supplémentaire et pour avoir amené Figaro qui nous a tenu compagnie. On va vous quitter avec « Ça devient une habitude », un extrait de théâtre. Il s'agit de « La nuit de Valogne » d'Éric Emmanuel Schmitt qui propose une réécriture du mythe de Don Juan. Devinez qui va récupérer le rôle. On espère, non nécessairement dans cet ordre, que vous hériterez bientôt de beaucoup d'argent, que vous allez vous mettre à Terry Pratchett, que vous lirez, verrez ou entendrez une reprise incroyable d'une autre œuvre. Pour cela, rien de plus simple, allez fourrer le nez dans un livre connu, inconnu, ancien, récent, intelligent ou très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles, copyright Camille qui doit bien souffrir du décalage si elle essaie de nous écouter en live.
Vous êtes ignoble.
Merci.
Effectivement, Don Juan, vous êtes très fort. Vous servez scrupuleusement à chacune d'entre nous ce qu'elle ne veut pas entendre. Car vous savez que la haine est un ciment plus fort que l'amour. Mais vous êtes démasqué, Don Juan. Nous déjouerons vos ruses. Parlez, duchesse.
Voici, Don Juan. Cette soirée n'est pas un bal, quoique visiblement vous vous y amusiez beaucoup. C'est un procès.
Un procès? Et le procès de qui?
Le vôtre.
Et le jury? Le procureur?
Nous-mêmes.
Ous pour cela, sans doute que vous êtes en robe, mais les jupons sont de trop. Et le plaignant? La victime?
Les victimes sont trop nombreuses, et même serrées. Elles ne tiendraient pas dans cette modeste demeure. Nous avons été forcés de choisir.
Don Juan lui baisant galamment la main.
Madame la Duchesse, vous êtes délicieuse. Personne ne sait recevoir comme vous, et je vous remercie de tout cœur.
Le procès aura lieu cette nuit.
Exécution à l'aube.
L'exécution durera plus longtemps que vous ne le croyez.
Un supplice? J'adore.
Crois-moi, dans quelques heures, tu riras moins.
Don Juan à la duchesse.
Et comme c'est gentil d'avoir fait venir spécialement des personnes si pittoresques, comment faites-vous pour avoir d'aussi bonnes idées?
Misérable, le pan de la duchesse est en train de mourir.
Celle-là surtout est impayable, vous avez eu raison de la déterrer.
Riez tout votre soul, Don Juan, vous ne me ferez pas changer d'avis.
Elle modifie brusquement son débit.
La famille de Chiffreville, cela vous dit quelque chose? J'ai dit Chiffreville.
Don Juan cesse immédiatement de rire.
Oh, il ne rit plus.
Il pâlit.
Il pâlit.
Il s'assied fébrilement.
Il s'assied fébrilement.
Il passe nerveusement sa main tremblante sur son front.
Il passe nerveusement sa main tremblante sur son front. Quel excellent comédien! Nous apprécions la performance, ces dames et moi. Mais n'en faites pas trop, c'est inutile. La petite Angélique est là, au-dessus de nous. Depuis que vous l'avez séduite, puis abandonnée après avoir tué son frère en duel... Oui, je sais, le duel fut loyal et son frère a demandé, avant de mourir, qu'elle vous pardonne. Elle est malade, Don Juan. Gravement malade d'une maladie qui n'a pas de nom pour les médecins, mais que nous, femmes, savons bien reconnaître. Le désespoir d'amour. Vous allez l'épouser.
Et vous lui serez fidèle.
Et vous ne la quitterez pas.
Et vous lui ferez des enfants.
Madame Cassin, lumineuse et triste.
Et vous la rendrez heureuse.
Sinon, cette lettre de cachet fera son office. J'y inscrirai votre nom, Don Juan. Vous aurez toute la police du royaume à vos trousses. Vous savez qu'elle est bien faite. Et vous pourrez paisiblement finir vos jours à la Bastille.
C'est le mariage ou la prison, ne balancez point.
Je doute qu'en ce donjon vous puissiez faire du charme à votre geôlier.
À quelques souris peut-être, il paraît qu'il y en a.
Mais non, il n'y a que des rats
ou de la vermine.
En tout cas, le jupon vous manquera.
Et le soleil.
Et la liberté.
Il ne vous restera que Dieu.
Vous lui demanderez votre pardon.
Mais comme vous n'y croyez pas, Dieu va sûrement s'ennuyer.
Mesdames, voyons.
À Don Juan.
Il y aura donc ce procès et vous épouserez la petite.
Don Juan. J'accepte.
Sortant dans ce silence.
J'accepte.